Chapitre 36. La côte inconnue. 24 heures avant qu'on aperçoive l'île, on ne savait toujours pas si Galaxy n'allait pas la manquer et se trouvait poussée vers le plein océan. Sa position, suivie par le radar de Ganymède, était affichée sur un grand tableau que tout le monde à bord surveillait anxieusement plusieurs fois par jour. Mais si le vaisseau touchait terre, ses problèmes ne feraient peut-être que commencer. Il pourrait s'écraser sur une côte rocheuse au lieu d'être gentiment déposé sur une plage. Le capitaine de Fortune Lee avait vivement conscience de toutes ces possibilités. Il avait lui-même fait naufrage, une fois, avec un yacht dont les moteurs étaient tombés en panne à un moment critique au large de l'île de Bali. Il n'avait aucune envie de recommencer, surtout sur une planète où il n'y avait pas de garde-côte pour vous porter secours. L'ironie de leur triste sort ne lui échappait pas. Ils étaient là, à bord d'un des moyens de transport les plus perfectionnés jamais conçus par l'homme, capable de traverser le système solaire. Et pourtant, ils ne pouvaient le faire dévier de quelques mètres de son cap. Néanmoins, ils n'étaient pas totalement réduits à l'impuissance. Ils avaient encore quelques atouts dans leur jeu. Sur ce globe à la courbe abrupte, l'île n'était qu'à 5 kilomètres quand ils l'aperçurent. Au grand soulagement de Lee, aucune de ces falaises qu'il redoutait n'était visible, mais pas non plus la plage qu'il espérait. Les géologues l'avaient déjà prévenu qu'il était trop tôt, de quelques millions d'années, pour trouver du sable. Les moulins d'Europe n'avaient pas encore eu le temps de faire leur travail. Dès qu'on fut certain de se diriger vers la Terre, Lee donna l'ordre de vider les principaux réservoirs de galaxies, qu'il avait fait inonder presque tout de suite après l'amérissage. Quelques heures très inconfortables suivirent, durant lesquelles un quart au moins de l'équipage ne fut pas en état de s'intéresser à la manœuvre. Galaxy s'éleva de plus en plus sur l'eau, s'y balançant de plus en plus follement, avant de tomber avec un gigantesque plouf à la surface, en position horizontale, comme un cadavre de baleine au temps où les braconniers leur pompaient de l'air dans le corps pour éviter qu'elle ne coule. Lorsque le vaisseau se fut ainsi allongé, Lee régla de nouveau la flottaison, jusqu'à ce que l'arrière s'enfonçât un peu et que la passerelle avant fût juste au-dessus de l'eau. Comme il s'y attendait, Galaxy se plaça alors en travers du vent. Un autre quart de l'équipage se vit alors contraint de s'arrêter, mais Lee avait bien assez d'assistants pour mouiller l'ancre flottante qu'il avait préparée en vue de cette dernière manœuvre. Ce n'était qu'un radeau de fortune, fait de caisses vides assemblées tant bien que mal, mais son tirant permit au vaisseau de se pointer vers la terre proche. Ils voyaient maintenant où ils allaient atterrir, avec une lenteur désespérante, sur une étroite bande de grève couverte de pierres. Faute de sable, c'était le meilleur choix. La passerelle était déjà au-dessus de la plage lorsque Galaxy s'échoua. Lee joua sa dernière carte. Il n'avait fait qu'un seul essai, n'osant insister davantage de peur que le mécanisme malmené ne tombât en panne. Pour la dernière fois, Galaxy déploya son train d'atterrissage. Il y eut un concert de grincements, un frémissement et des secousses quand les patins, sous la coque, s'enfoncèrent dans la surface étrangère. Le vaisseau était maintenant solidement ancré, contre vents et marées, sur la berge de cet océan sans marée. Galaxy avait trouvé là, indiscutablement, son dernier lieu de repos. Et peut-être, vraisemblablement, celui de son équipage et de ses passagers.